Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance.
Elle est si avide qu'elle ne peut pas vivre. Elle ne vivra pas. J'avais sous les pieds le bruit des roues sur les rails, de ces roues qui écrasent, dans les chairs écrasées qui éclatent.
Devant ceux qui possèdent un motif, une raison, je ne regrette rien, je n'envie personne. Je les presse au contraire de partager mon sort. Je sens ma haine des motifs et ma fragilité comme heureuse. L'extrême difficulté de ma situation est ma chance, je m'enivre d'elle. Mais je porte en moi, malgré moi, comme une charge explosive, une question. Que peut faire en ce monde un homme lucide, portant en lui une exigence sans égard ? Et c'était un clin d'œil, et c'est plus qu'un clin d'œil à l'équipe des Nouveaux Chemins, la chance dont on s'enivre, Marianne Chassor, Lucie Tardy, Antoine Ravon, David Pargamin, Denis Ramon, et bien sûr Adèle Vendrette, avec Nicolas Berger à la réalisation, Jean Cotrel à la lecture des textes, et à la prise de son aujourd'hui, Nicolas Delmas. Dans le cinquième numéro de sa revue Acéphale, qui paraît en juin 1939, Georges Bataille livre ce qui a tout l'air d'une méthode. « Je fixe, nous dit-il, un point devant moi, et je me représente ce point comme le lieu géométrique de toute existence et de toute unité, de toute séparation et de toute angoisse, de tout désir inassouvi et de toute mort possible. » J'adhère à ce point et un profond amour de ce qui est en ce point me brûle jusqu'à refuser d'être en vie pour autre chose que ce qui est là. Pour ce point qui, étant ensemble vie et mort d'un être aimé, a un éclat de cataracte. Quand on tente de mettre la main sur l'identité de Georges Bataille, on ne tombe que sur des paradoxes. Un philosophe contre les idées, un économiste de la dépense, un bibliothécaire pornographe, un mystique sans dieu, un souverain sans maîtrise, un poète qui sacrifie les mots, un auteur sans nom. Comme si le paradoxe nous sauvait quand les mots ne savaient plus quoi dire, quand éclataient dans toute leur épaisseur des contradictions, quand se révélaient enfin des oppositions irréductibles à ce point géométrique de toute existence et de toute unité. Eh bien, pendant les échanges qui s'annoncent, nous ne renoncerons donc pas non plus à souligner ces paradoxes qui rendent Bataille insaisissable. Et nous ne renoncerons pas non plus à dire qu'il est paradoxal pour au moins tenter de le saisir. Et nous ne nous arrêterons pas là. Nous donnerons aussi un nom à celui qui écrivait pour oublier le sien. Nous séparerons en quatre moments ce qui était pour lui inséparable dans ses textes, dans sa langue, dans ses réflexions, sans perte ni fracas, mais en ouvrant cet œil qu'il voulait aveugler, en réalisant l'envers de son expérience, en accomplissant le contraire de son impossible, nous ferons mieux que le contredire ou que le rendre à ses paradoxes. Nous le rendrons à toute sa fragilité, si clamée, à son impossibilité, tant désirée. Nous le rendrons à sa chance, à sa propre bataille, à sa vie sur la pointe de la mort. Et loin de lui donner des motifs pour autant, des raisons d'être, en portant aussi une exigence sans égard, parions que le feu et l'amour nous brûleront tout autant. Avant sa politique de l'impossible, avant la transgression érotique et avant son hypermorale, bien au-delà du bien et du mal, faisons aujourd'hui l'expérience intérieure de sa poésie avec Sylvain Santi, maître de conférence à l'Université de Savoie, spécialiste des avant-gardes et dissidences, auteur notamment de Georges Bataille, à l'extrémité fuyante de la poésie. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour, merci. Je crois qu'il est essentiel pour nous d'affronter le danger que représente la littérature. Je crois que c'est un très grand et très grave danger, mais que l'on est vraiment homme qu'en affrontant ce danger. Et je crois que c'est dans la littérature que nous apercevons les perspectives humaines restituées sous leur jour le plus entier. Parce que la littérature ne nous laisse pas vivre sans apercevoir les choses humaines dans leur perspective la plus violente. Que l'on songe à la tragédie, à Shakespeare, et il y a de multitudes d'aspects du même genre. C'est tout de même la littérature qui nous permet de voir le pire et de savoir lui faire face, de savoir le surmonter. Et somme toute, cet homme qui joue trouve dans le jeu la force de surmonter ce que le jeu entraîne d'horreur.
Sylvain Santi, c'est la voix de Georges Bataille qui ouvre cette émission. C'était dans une archive du 21 mai 1958, dans l'émission Lecture pour tous de l'ORTF. La littérature, nous dit-il, nous montre le pire. Pour le coup, dans la bouche de Georges Bataille, cela fait sens, puisque les a priori qu'on a sur ces textes littéraires, c'est plutôt des expériences limites, des histoires de foutre, de merde, du langage cru. En quoi montrer finalement ce pire dans la littérature, selon Georges Bataille, permet aussi de l'affronter ?
Il faut peut-être commencer par le premier mot que vous avez employé, c'est « montrer ». Une des définitions qu'il aimait le plus de la poésie, c'est ce qui donne à voir. Et il l'apprend chez Éluard d'ailleurs, qui est le titre d'un des recueils d'Éluard, Donner à voir. Dans Donner à voir, il faut entendre deux choses. Le don, même plus la restitution de quelque chose, et voir, faut pas le prendre au sens métaphorique pour le coup, mais le prendre au sens très littéral, c'est la sensation. Alors qu'est-ce qui est à restituer ? Ce qui est à restituer, c'est une part de la sensibilité il faut restituer une part à la sensibilité dont l'activité l'a privée. Et la poésie, pour le coup, c'est cette opération qui, passant par la sensation, peut opérer cette restitution de la sensibilité.
Quelle est cette activité qui aurait privé sensibilité de sa sensation ?
Là, c'est immédiatement, si vous voulez, il faut prendre Bataille dans sa méthode. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense dans l'histoire. Donc, par exemple, si vous prenez les grands articles sur la poésie, dès le titre, vous avez de l'âge de pierre à Jacques Prévert. Ça fait des énormes masses de temps. Donc, pour penser l'activité d'un poète du XXe, il va aller chercher des choses du côté de l'anthropologie et des premiers hommes. Et qu'est-ce qu'il va trouver ? Il va trouver que l'homme met le monde en coupe réglée, développe l'activité, développant l'activité, se prive petit à petit de la sensibilité, transforme les réalités en choses. La chose, c'est la privation de valeurs sensibles. Mais en même temps, dans ce mouvement, il y a quelque chose qui est plus fort que ce mouvement en l'homme. Quelque chose qui excède ce mouvement, et c'est ce qu'il appelle le cri de l'émotion. L'émotion qui veut plus, l'émotion qui veut retrouver cette part sensible. Et comment est-ce qu'on retrouve à l'âge de pierre, si on le suit, avec tous les bémols qu'il faut mettre, mais c'est sa vision à lui de l'histoire des premiers hommes, c'est le sacrifice. Et le sacrifice est censé restituer cette part de sensibilité dont l'homme a été privé en développant l'activité. Et quand il pense à la poésie, il pense sacrifice, et immédiatement il rapproche les deux opérations, puisqu'il dit, comme dans le sacrifice, dans le poème, il y a une capacité à retrouver le pouvoir d'exciter le désir ou l'horreur dans l'objet. Et je crois que c'est ça qu'il pointe notamment quand il parle de violence dans l'extrait.
Il y a aussi chez Georges Bataille, quand on connaît très peu Georges Bataille, ce texte qui est l'expérience intérieure, qui peut s'apparenter à une expérience poétique elle aussi, puisqu'il s'agit dans l'expérience intérieure, je lis ici les premières phrases qui ouvrent ce texte, Bataille nous dit « J'entends par expérience intérieure ce que d'habitude on nomme expérience mystique, les états d'extase, de ravissement ou au moins d'émotion méditée. L'expérience intérieure répond à la nécessité où je suis de tout mettre en cause » en question sans repos admissible. C'est aussi, quand vous parlez de sacrifice, Sylvain Santy, c'est aussi ce qui se passe avec la poésie, ce qui se passe aussi avec l'expérience intérieure, c'est de mettre tout en suspens finalement, pour revenir à une essence première des choses, pour n'arriver à aucun terme.
Alors, là vous avez cité beaucoup de mots qu'il ne faudrait pas prendre comme des équivalents, hein, extase, sacrifice, communication, mort, mal, etc. Tous ces mots dont on connaît la récurrence dans l'œuvre. Je crois que, si, pour faire plus simple, si par exemple on prend sacré et poésie, ce sont des termes que souvent il dit équivalents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de nature, il n'y a pas de différence de degré. Ce qui les différencie, c'est quelques accidents. L'émotion poétique, l'émotion sacrée, c'est la même chose. Alors qu'est-ce qui se passe à partir du moment où effectivement on voit Bataille sous l'angle mystique ? Lui-même peut dire que c'est un mystique conscient. Un mystique conscient, c'est assez étrange. Alors, il parle aussi de négativité sans emploi, un mystique conscient. Il y a toujours chez lui cette idée que on va aller au bout de quelque chose, et c'est en allant au bout de quelque chose que un reste va se manifester, un reste va être, disons, perçu, et c'est par la poésie, par le sacrifice, par l'extase qu'on va avoir une relation avec ce reste.
C'est ce qui se passe aussi avec la poésie.
Et c'est ce qui se passe aussi avec la poésie. L'intérêt, si vous voulez, c'est de ne pas écraser toutes ces notions, pas dire poésie égale sacré, égale extase, égale mort, égale mal, etc. Mais se poser une question très simple, c'est à partir du moment où on voit que ce qui l'intéresse, c'est de placer la poésie au cœur d'une contradiction qui structure l'homme. On pourrait dire les choses comme ça. On a un besoin irrépressible de représentation de notre rapport au réel, de la résonance du réel en nous. Mais en même temps, il n'y a aucune représentation formée qui puisse satisfaire ce besoin de représentation. La poésie commence là. Elle commence dans un mouvement de malgré tout, de quand même. Malgré cette contradiction inhérente, qui est une contradiction de structure, la poésie, c'est ce qui va quand même essayer de donner une représentation. Ce qui fait que la poésie est immédiatement ancrée dans l'impossible et que l'impossible est en son cœur. Alors, ce sera quoi la poésie au fond ? Ce sera peut-être garder des traces de ce dehors, hors langue, de cet innommable que l'on perçoit.
Qui serait ce reste, ce malgré que, c'est ça ?
Voilà, que l'on perçoit uniquement parce qu'il y a du nommable et que le nommable, à un moment, atteint sa limite. Comme à un moment, il y a de l'impensable parce qu'on peut penser jusqu'à un certain point et qu'à un moment, ça se clôt, ça se termine. Et ça, c'est tout le rapport à Hegel. Mais dans le rapport à Hegel, il y a tout le ferment où il va penser la poésie et la fonction qu'est pour lui la poésie.
J'ai de la merde dans les yeux, j'ai de la merde dans le cœur. Dieu s'écoule, rit, rayonne, enivre le ciel. Le ciel chante à tue-tête, le ciel chante, la foudre chante, l'éclat solaire chante, les yeux secs, le silence cassé de la merde dans le cœur. Si un gland jouissant engendrait l'univers, il le ferait comme il est. On aurait dans la transparence du ciel, du sang, des cris, de la puanteur. Dieu n'est pas un curé, mais un gland. Papa est un gland. Ma fêlure est un ami, aux yeux de vin fin, et mon crime est une amie, aux lèvres de fine. Je me branle de raisin, me torche de pomme.
Prurite infinie de fourmis, arrestation, tri de papier, moustaches en poussière, wagonnets de fièvre, colonnade de pluie folle, claquement de linceul souillé, funèbre impudeur des humains os. Là, une foule amoncelle des boîtes de peut-être, un gendarme en chemise du haut d'un toit gesticule, une faux, le démon.
« Sylvain Santier, on vient d'entendre deux poèmes de Bataille. Alors le premier que j'ai lu est extrait du Petit qui a été publié en 1943. Il apparaît dans la section Absence de remords. Et puis on a entendu, interprété par Jean Cottrel, un poème tiré, alors non pas tiré de l'Arc angélique, mais éliminé en fait de ce recueil qui lui a été publié en 1944. Et on retrouve ce que vous disiez, Sylvain Santier, à savoir que là, on fait peut-être l'expérience des limites du nommable, c'est-à-dire que Bataille nomme les choses de manière les plus crues, les plus basses, les plus matérielles. Vraiment, on est au cœur de l'humide, de la mer, des excréments, etc. Et on est vraiment aux limites à la fois de l'acceptable, mais aussi du nommable. Est-ce que c'est ça la manière dont va procéder Bataille dans sa poésie pour montrer cette expérience des limites?
Oui, alors... Si on part de l'idée que Bataille veut lutter absolument contre l'idéalisme, et c'est sa grande opposition première au surréalisme. La poésie, c'est l'idéalisme et c'est ce qu'il faut combattre. Si donc on continue avec cette idée, on dit que la poésie va être inscrite dans un certain matérialisme, un matérialisme le plus conséquent possible, parce que c'est ça Bataille, hein, chercher à établir le matérialisme le plus conséquent possible, y compris en poésie. Alors on va aussi dire que la poésie ne vaut que dans un temps donné. Et si la poésie ne vaut que dans un temps donné, c'est que elle doit être à même, dans ce temps donné, de porter le plus loin qu'il se peut l'émotion. L'émotion dont je parlais tout à l'heure, dont nous aurait privé le monde de l'utile, etc. Et les poèmes qui ont été entendus, je crois qu'ils sont assez intéressants de ce point de vue-là. Ils utilisent un matériau qu'on peut trouver tout à fait daté aujourd'hui. Alors après, c'est chacun fait la part des choses, mais ils utilisent un matériau qui, pour Bataille, à ce moment-là, était sans doute le matériau le plus à même de créer cette émotion qu'il recherchait à restituer. Et ce qui veut dire aussi que ça engage la poésie dans un mouvement qui est infini, incessant, parce que d'une part, on peut le prendre comme je disais tout à l'heure, elle se confronte à un impossible, qui est sa source et à laquelle elle revient toujours et qui mine ses figures, qui mine ses tentatives de figuration. Et c'est aussi une poésie qui, parce qu'elle se veut au plus près de l'événement, parce qu'elle veut donner à voir le monde tel qu'il est, ça c'est lui qui le dit, hein, c'est une de ses formules, va utiliser le matériau du moment pour essayer d'aller le plus loin possible dans l'émotion dont nous aurait privé ce monde de l'activité et en gros le monde de l'utile. Et le deuxième poème qui a été lu, moi j'ai toujours, en lisant ces petits poèmes là, qui sont un peu désuets aussi, faut bien le dire, hein, parce que c'est pas très travaillé d'un point de vue poétique. D'ailleurs, quand Bataille parle de la poésie, il a assez peu d'attention à la technique poétique elle-même.
Il veut même la déconstruire.
Il veut la déconstruire. Il veut surtout faire en sorte que soit inscrit en son cœur même un mouvement qui fait qu'elle ne durera pas.
Mais c'est ça qui est paradoxal chez Bataille, c'est d'une part à la fois se dire vouloir créer de la poésie mais vouée à la disparition, et que contre lui le temps a joué, puisque les poèmes de Bataille, ils sont restés d'une certaine manière, puisque à la différence peut-être pas ces recueils de poèmes en tant que tels, mais en tout cas on peut pas passer à côté du fait que tous ces textes, on va dire plus philosophiques, plus qui sont plus des réflexions, en fait sont émaillés aussi de passages poétiques, et ça c'est resté et ça a fait œuvre chez Bataille et ça le représente.
Oui, mais parce que là je pense qu'il y a pour le coup, faudra prendre le mot avec des pincettes, là il y a un idéal chez lui, c'est-à-dire un mouvement asymptotique pour essayer de définir les conditions les meilleures dans lesquelles l'art peut avoir de vrais effets, peut avoir une vraie force. Alors ça s'appelle la souveraineté. Alors si on reprend ce que je disais au tout début, si on oppose le monde de l'activité et le monde poétique, c'est un peu schématique mais ça fonctionne quand même comme ça. Si la poésie est là pour restituer la part de sensibilité dont nous a privé le développement de l'activité, si la poésie est là pour contrecarrer la chose et nous remettre dans un mouvement de communication avec elle, donc redonner des valeurs sensibles là où il n'y en avait pas, plus là où on en a été privé. À partir de ce moment-là, il est évident que celui qui écrit doit, de toutes ses forces et de toutes les manières possibles, ne pas appartenir à ce monde de l'activité. Et s'il ne veut pas appartenir à ce monde de l'activité, il y a un certain nombre de choses auxquelles il doit renoncer. Et par exemple, vous avez un texte en 48, La religion surréaliste, où Bataille parle de dépersonnalisation. La dépersonnalisation, c'est quelque chose sans doute qu'il attendait de du surréalisme. C'est aussi une utopie quelque part, c'est-à-dire écrire sans avoir souci de l'avenir, et donc forcément, on n'est plus auteur au sens classique comme on l'entend, on perd l'idée que l'œuvre va s'inscrire dans le temps, durer, etc. Tous ces schémas-là s'écroulent, et si on est dans ce mouvement de dépersonnalisation, alors effectivement, on a, selon lui, la possibilité, et là je le cite, de s'enfoncer plus loin dans la conscience. Voilà.
Donc très bizarrement, on s'enfonce dans la conscience alors même que nous n'avons plus de personne.
C'est ça.
Mais dans quelle conscience on s'enfonce dans ce cas-là ?
Alors ça serait... Alors là,
si l'on n'est plus un individu.
Là, on est des textes vraiment qui sont à la limite de ce qu'il... comme dit Nancy, c'est à partir de là qu'il faut... C'est l'héritage qui est là. C'est à partir de là qu'il nous faut penser. Son idée, c'est sans doute... Alors là, il faut reprendre son rapport à la philosophie. Se dire que Hegel, c'est chez lui peut-être un personnage conceptuel. Hein, faut voir tous les portraits qu'il fait de Hegel. Hegel qui, à la fin du système, voit l'horreur sur son visage d'être Dieu. Hegel qui n'a plus rien à faire, qui joue aux cartes, etc. Qui a clos le système, qui est allé au bout des possibilités. Mais il y a ce reste, forcément. Il y a ce reste qu'on dit, par exemple, Kierkegaard ou Nietzsche. Voilà. Il reste quelque chose de l'individu que le système n'épuise pas. Bon, si on se remet dans ces perspectives-là, alors on a un Bataille qui est complètement hegelien, qui a un rapport extrêmement fort à Hegel, qui dit même que Hegel a souffert plus que Kierkegaard de la fermeture du système, et que au bout du compte, il reste encore quelque chose, non pas dans l'appropriation que l'esprit peut faire de lui-même, mais il y a un reste avec lequel on doit composer, faire. Et c'est là qu'intervient l'extase, la poésie, etc. Et c'est là qu'il a cette formule effectivement étrange de s'enfoncer dans la conscience. Mais comme je pense certains de vos invités parleront d'hyper-morale, peut-être que c'est un hyper-hegelien aussi quelque part. Il veut être encore plus conscient que ce qu'il prête comme conscience à Hegel, qui est un Hegel très particulier.
Hein, oui, c'est ça, parce que Hegel,
ça passe par
Et puis surtout, c'est Hegel, c'est le philosophe du système, alors que Bataille, c'est le philosophe, si tant est qu'on puisse le définir comme ça, qu'on ne classe jamais.
Qu'on ne classe jamais, mais qui a quand même un beau système aussi.
Ah, vous parleriez de système.
Bah, disons que système.
Parce que c'est très paradoxal aussi.
Ça fonctionne quand même très bien, toutes ces notions.
Ça fonctionne très bien. C'est vrai qu'effectivement, les termes ne sont pas équivalents, mais ils sont proches et ils fonctionnent ensemble. Néanmoins, Bataille, dès lors qu'il s'attaque à ce reste dans lequel il veut se plonger, est bien déjà hors du système.
Ah oui, oui.
Ce reste est en dehors du système. Comment on peut faire système à partir de ce reste qui résiste ?
C'est la fameuse formule, il faut le système, il faut l'excès. Il y a toujours ces deux choses. C'est un mouvement de balancier. Il y a ces deux choses. Et je ne sais pas, alors bon, ça m'est venu en venant ce matin, en fait. Et je me disais peut-être que Bataille qui est si attentif à tout ce qui est exercice spirituel, méditation, etc. Des fois, j'ai presque l'impression que son rapport à Hegel aussi relève de ça. C'est-à-dire que même dans son rapport à la science, ce qui l'intéresse, c'est que de toute façon demeure un inconnaissable, demeure quelque chose qui résiste, demeure une tâche aveugle qui fait que jamais il n'y a un dernier mot possible. Et la question qu'on peut se poser, et c'est peut-être une des questions les plus actuelles, les plus intéressantes quand on lit cette œuvre, c'est nous, lecteurs de cet auteur qui est tellement obsédé par ça, qu'est-ce qu'on en fait ? De ça, du fait que de toute façon il n'y a jamais de dernier mot et qu'après il y a tout un système d'absence dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Il n'y a jamais de dernier mot possible. Alors c'est là que c'est intéressant parce que aussi bien le rire que la poésie, il faut les voir comme des mouvements. Le rire chez Bataille, moi je ne l'ai jamais vu par exemple comme un rire ironique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des charges ironiques très fortes, ça peut être sardonique, sarcastique, tout ce que vous voulez, mais ça ne définit jamais une nouvelle position de pouvoir, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Et la poésie, c'est la même chose. La haine de la poésie, c'est quoi ? C'est un infini mouvement de relance de la poésie.
C'est ça qu'il faut dire aussi, effectivement, c'est qu'on parle de bataille poète comme si c'était acquis, alors qu'il a quand même écrit un texte qui s'appelait La haine de la poésie, qui est devenu L'impossible, qui a pris ce titre de L'impossible par la suite. Donc, il faut aussi distinguer de quelle poésie il s'agit.
Alors, La haine de la poésie, c'est précisément, je peux le dire peut-être en termes comme, je peux le dire dans ces termes-là. Si vous, dès lors que vous écrivez, et que vous voulez restituer ce sentiment plus juste que vous n'avez pas dans le langage commun, de votre, de la résonance du réel en vous. Dès lors que vous écrivez, même si le poème, il est fait de plein de coupes, même s'il a un rythme saccadé, même s'il est éclaté typographiquement, il va de toute façon vous, il va produire une continuité. Et la discontinuité que vous voulez exprimer, elle va être toujours en conflit avec cette continuité que, inéluctablement, l'écriture va ramener. Alors, il y a plusieurs réactions face à ça. On peut charger, on peut aller dans le sens de ce liant, on peut en rajouter jusqu'à le faire exploser. Et puis, il y a aussi cette possibilité de faire chuter ça dans la dérision. Et moi, j'ai aussi entendu les poèmes de bataille comme ça. C'est-à-dire, la poésie qui n'est pas la dérision de la poésie n'est pas la poésie. La poésie qui ne détruit pas la poésie n'est pas la poésie. La haine de la poésie, c'est ce mouvement dans lequel on lance la poésie, dans lequel on sait aussi, parce que sa source est l'impossible et qu'elle y revient toujours, qu'elle est minée de l'intérieur et qu'il va falloir la miner le plus possible pour que rien ne se fige. L'important, c'est de la porter vers l'instant. Et l'instant, ce n'est rien d'autre que le retour de cette émotion dont on parlait au départ.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon. Trois mousquetaires des cinq doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière l'hiver et on l'a écrasé et la maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués.
Il est 10h27, vous êtes sur France Culture et vous écoutez les nouveaux chemins de la connaissance. Vous écoutez les frères Jacques en sortant de l'école, une chanson écrite par Jacques Prévert. Et c'est normal puisque c'est le premier moment d'une semaine consacrée à Georges Bataille. Vous allez vite faire le rapprochement. Et pour ouvrir cette semaine, j'ai le plaisir d'évoquer l'expérience poétique en compagnie de Sylvain Santi, maître de conférence à l'Université de Savoie, spécialiste des avant-gardes et de leur dissidence, qui est l'auteur de plusieurs articles sur les rapports entretenus par les avant-gardes des 70 avec le surréalisme et ses marges, et auteur notamment de Georges Bataille à l'extrémité fuyante de la poésie que l'on trouve aux éditions Rodopi.
De la lune et des étoiles, à pied, à cheval, en voiture et en bateau.
De la poésie, je dirais qu'elle est, je crois, le sacrifice où les mots sont victimes. Les mots, nous les utilisons, nous faisons d'eux les instruments d'actes utiles. Nous n'aurions rien d'humain si le langage en nous devait être en entier servile. Nous ne pouvons non plus nous passer des rapports efficaces qu'introduisent les mots entre les hommes et les choses. Mais nous les arrachons à ces rapports dans un délire. Que des mots comme cheval ou beurre entre dans un poème, c'est détacher des soucis intéressés. Pour autant de fois que ces mots « beurre, cheval » sont appliqués à des fins pratiques, l'usage qu'en fait la poésie libère la vie humaine de ses fins. Quand la fille de ferme dit le beurre, ou le garçon d'écurie le cheval, ils connaissent le beurre, le cheval. Mais au contraire, la poésie mène du connu à l'inconnu. Elle peut ce que ne peuvent le garçon ou la fille. introduire un cheval de beurre. Elle place de cette façon devant l'inconnaissable. Sans doute ai-je à peine énoncé les mots que les images familières des chevaux et des beurres se présentent, mais elles ne sont sollicitées que pour mourir. En quoi la poésie est sacrifice, mais le plus accessible, car si l'usage ou l'abus des mots auxquels les opérations du travail nous obligent a lieu sur le plan idéal, irréel du langage, il en est de même du sacrifice de mots qu'est la poésie.
La poésie est le sacrifice où les mots sont victimes, c'est une phrase qui apparaît dans l'expérience intérieure de 43 donc, et dont on vient d'entendre un extrait, interprété par Jean Cottrel, et qui résonne avec la conversation qu'on vient d'avoir, Sylvain Santi, à savoir cette haine de la poésie qu'a Bataille, la manière de sacrifier, la manière de la remobiliser, c'est aussi précisément de la sacrifier.
Oui. Oui, c'est aussi de la sacrifier, c'est sacrifier les mots déjà dans un sens assez banal finalement hein, quand on parle de poésie, c'est-à-dire que on les enlève de leur usage les plus courants, enfin on leur enlève pardon leur usage le plus courant, on attaque aussi ce qu'ils peuvent véhiculer d'idéologie, ça c'est des choses qui seront pas mal reprises par ceux qui s'intéresseront à Bataille plus tard.
D'où le côté un petit peu scandaleux aussi parfois.
Oui, mais encore une fois, je veux dire scandaleux. Alors, faudrait s'entendre scandaleux pour le temps dont auquel il écrit, peut-être. Bah, pour nous, je ne sais pas.
Après, oui, c'est une écriture. Vous le sous-entendiez tout à l'heure, Sylvain Santi. C'est une écriture qui peut-être, à certains égards, s'est banalisée. C'est-à-dire que cette manière d'écrire, en faisant intervenir les mots « merde »,« foutre », en décrivant les situations les plus incongrues et les plus pornographiques, est quelque chose qui est beaucoup plus courant maintenant. Mmh. Et le côté scandaleux nous frappe beaucoup moins.
Non, mais c'est là qu'il faut travailler. C'est-à-dire que si on est bataillien, si, en tout cas, Bataille, c'est simplement quelqu'un qui propose un modèle pour penser des questions. Moi, je préfère le prendre comme ça. Je crois que c'est un bon rapport aussi. Hein. C'est pas enlever toute passion, c'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, fait des propositions pour penser la poésie, penser la littérature, penser son rapport à la philosophie, etc. Après, il faut en faire quelque chose. Si on est dans les perspectives qu'il a ouvertes, c'est idiot de vouloir reproduire la même littérature que lui. Je veux dire, est-ce que vous voulez restituer une émotion aujourd'hui en parlant de curé défroqué ? C'est plus notre matériau, c'est fini, ça. Enfin, ça va peut-être revenir, j'en sais rien. En tout cas, moi, c'est pas le mien. Vous voyez ? Bon, la question, c'est si on est dans ces perspectives-là, avec quoi on écrirait pour atteindre cette émotion qu'il recherche. Si c'est comme ça qu'on pense l'opération poétique, eh bien forcément, le matériau n'est pas le même. Hein, lui-même le dit, si on est dans une société où c'est l'ordre militaire qui domine, si c'est l'ordre religieux, si c'était l'ordre politique, forcément, les émotions ne viennent pas par les mêmes canaux. Si faut rajouter à cela les rapports de classe, de hiérarchie, etc., etc. Donc tout ça, vous voyez, c'est aussi une manière d'inscrire la poésie dans le matérialisme. Il y a une matérialité autour de la poésie à laquelle il est toujours très attentif. Il y a des conditions dans lesquelles c'est écrit. Et pour bien comprendre, être rigoureux, pour bien comprendre donc ce qu'il propose, il faut aussi toujours replacer ses propositions face au surréalisme, face à l'existentialisme. Par exemple, on comprend pas grand-chose à la souveraineté si on voit pas que, pour une très large part, ça répond à l'engagement sartrien, etc., etc. Bon. Mais si on peut revenir juste sur la chanson que vous avez passée, ce qui est intéressant,
c'est une chanson des frères Jacques.
Voilà, c'est Prévert.
Écrit par Prévert.
Et c'est quand même étrange que on associe Bataille à Prévert.
Vous allez nous dire pourquoi.
Alors moi, pourquoi, j'en sais rien, mais c'est lui qui l'a fait.
Non, mais quel est le lien que fait Georges Bataille
Si vous voulez, si je vous dis Bataille, poésie, vous allez plutôt penser Baudelaire, Fleur du Mal, Rimbaud, Proust aussi, si vous l'avez un peu lu, ce qui montre aussi que c'est transgénérique et que c'est pas... voilà.
Et d'ailleurs, le texte qu'on a entendu interprété par Jean Cottrel est extrait d'une digression sur Marcel Proust dans l'expérience intérieure.
Oui. Et vous pouvez penser aussi à Souveraineté, Char, quelqu'un qu'il admirait beaucoup. Et alors, si on prend juste ce nom-là, Char, auquel il consacre des textes, auquel il écrit une lettre très importante sur la littérature et la poésie. On comprend, là, la souveraineté, Char, ça parle immédiatement. Mais, de l'autre côté, il admire énormément Queneau. Il admire aussi Prévert. Alors, il fait un long article sur Prévert, un des plus complexes sur la poésie, qui est, je crois, de 46 ou 47. On peut faire une part de provocation, de malice, etc. Il faut regarder aussi la manière dont il fait le portrait de Prévert. Prévert, il le décrit comme quelqu'un qui est passé par le surréalisme, un peu comme lui, mais qui, dit-il, riait sous cape, un peu comme lui, qui a laissé faire, qui a regardé et qui a compris que c'était pas là qu'il allait véritablement écrire. Et puis ce qu'il aime chez Prévert, c'est la dérision. Prévert, c'est un garnement, c'est une certaine enfance que vous retrouvez aussi chez Bataille. Bataille aime bien dire que c'était un garnement, qu'il n'était pas bon à l'école. Vous voyez, il dit ces choses-là, c'est pas tout à fait anodin. Si pour le dire maintenant, on prend une toute autre perspective, un tout autre plan, c'est lui aussi qui dit qu'il aimerait bien être la dent malade dans la bouche de Hegel. C'est-à-dire là, par où pensée va se formuler, se dire, mettre quelque chose d'une matérialité pourrissante qui va gêner l'idée. Vous voyez ? Donc, la chanson, chez lui, c'est très important, puisqu'il peut en faire même une définition de la poésie. La poésie, c'est ce qui peut être chanté, dit-il. Voilà. Et là aussi, il y a une souveraineté, parce que quand vous chantez, il n'y a pas de but. Vous chantez, tout d'un coup, vous chantez. Voilà.
Ce qu'on peut interroger chez Bataille à cet égard, c'est effectivement de vouloir désacraliser la poésie, la sacrifier, mais néanmoins écrire de la poésie. C'est-à-dire que les poèmes de Bataille sont là, et effectivement, même si les mots sont déchargés de leur dimension utilitaire, les mots sont utilisés dans le but de provoquer quelque chose chez le lecteur. Or, il y a quand même cette difficulté à articuler chez lui, d'un côté, une forme de poétique, c'est-à-dire de création, de fabrication, de moyens mis en œuvre pour parvenir à un but, et puis le but quand même qui est de sacrifier, c'est-à-dire la dépense gratuite et inutile. Comment on peut articuler ces deux dimensions ?
Ben, vous êtes au cœur du problème, vous êtes au cœur de la difficulté qu'il a toujours, je pense... creuser, qu'il n'a cessé d'interroger, et là, si on avait le temps, il faudrait prendre tous les textes les uns après les autres pour voir les variations, c'est-à-dire que des fois la poésie, et je parle pas du tout début où il y a un côté stratégique, où on condamne la poésie parce que via la poésie on condamne l'idéalisme du surréalisme, etc. Donc quand vraiment il s'intéresse à la poésie, quand la poésie devient ce vecteur peut-être qui continue ce qu'il n'a pas pu vivre dans ses expériences communautaires à Céphale, le collège de sociologie dans les années 30, puisque c'est bien là que le mot arrive avec beaucoup de force dans l'œuvre. Quand on voit tout ça, on voit beaucoup d'hésitation chez lui. C'est-à-dire que la poésie peut être vue comme quelque chose de mitigé du point de vue de son efficacité, ou au contraire portée au nu. Parfois, elle est l'égale du sacrifice, l'égale de l'érotisme. Elle est tout aussi bouleversante que les dérèglements de l'érotisme. Parfois, elle est absolument souveraine. Et puis dans un autre texte, elle l'est beaucoup moins. Bon, il y a toujours de toute façon cette difficulté que vous dites très bien, c'est-à-dire que, et à laquelle la haine de la poésie tente de répondre, c'est que dès le départ, la poésie étant vouée à l'impossible, devant y retourner, devant composer avec lui en étant né, etc. Toutes ces figures seront minées par une impossibilité. Et on peut aussi, c'est une autre façon de le dire, la poésie cherche l'instant, mais elle est toujours à la merci de la durée. C'est pour ça aussi qu'il y a dépersonnalisation, parce que si vous écrivez dans une perspective pour faire œuvre, etc., vous remettez votre poème dans le monde de l'utile, vous en refaites une chose alors qu'il faut l'en extraire pour restituer les valeurs utiles que la chose nie.
Mais plus largement, Sylvain Santi, si on fait de l'expérience poétique une manière de comprendre ce fil qui peut-être traverse l'œuvre de Bataille, qui est l'expérience intérieure, il y a véritablement une impossibilité de cette expérience intérieure. Le sujet se déborde sans cesse, il est toujours miné par la possibilité d'être sur la pointe de la connaissance pour toucher l'inconnaissance ou le non-savoir. Cette impossibilité aussi à être au cœur de soi-même et en même temps à avoir perdu le siège de ce que l'on est, cette impossibilité poétique est aussi cette impossibilité de l'expérience intérieure.
Oui, oui, oui. Puis il faut se rappeler aussi que dans l'étymologie d'expérience, il y a l'essai, la tentative sans réserve. si on prend l'étymologie, hein, hors bataille. Il y a l'idée d'une traversée, l'idée de se livrer à un péril de son intégrité. Voilà. Alors tout ça, je pense qu'on le retrouve très bien. Et pour le coup, le mot chez lui veut dire en partie cela. Mais surtout, par rapport à tout ce que vous avez dit, il y a un mouvement infini. Et c'est toutes ces lettres, enfin cette lettre en tout cas, un peu étrange qu'il écrit à Kojève quand il se définit comme une négativité sans emploi, comme quelqu'un qui n'a plus rien à faire. Mais parce que l'histoire est finie, parce que la pensée est achevée, parce que le système est clos. Voilà, et à partir de là, il y a ces opérations qui le portent vers ce reste, vers cette tâche aveugle, vers cet inconnaissable, irréductible, mais que l'on peut éprouver, mystique conscient. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait, parce que Bataille, c'est ça. Faut jamais oublier ça. Bataille, c'est quelqu'un qui passe sa vie à lire. C'est un bibliothécaire. D'ailleurs, quand on l'attaque, Sartre en fait un acide bibliothèque, vous voyez. C'est quelqu'un qui passe son temps à lire, qui, là je le cite un peu de mémoire, qui veut porter la raison jusqu'à son incandescence, ça c'est bien bataillien pour le coup, c'est-à-dire jusqu'à ses ultimes possibilités, et puis après il y a l'émotion la plus forte qu'on attend. Mais tout ça, encore une fois, marche ensemble.
Évidemment, je suis philosophe, au moins jusqu'à un certain point. Et toute ma philosophie consiste à dire que le principal but que l'on puisse avoir est de détruire en soi l'habitude d'avoir un but. Je n'aspire qu'à une chose, dans la mesure où je me donne encore des buts, c'est à me supprimer. Il est naturel que ce soit l'objet d'une critique assez sérieuse, parce que somme toute, ni maintenant ni autrefois, je n'ai pris de revolver ni de poison. Je crois qu'il est plus amusant. Il est peut-être plus lâche aussi. Il est plus amusant d'essayer de se supprimer avec une gymnastique de l'esprit ou des sensations. Je crois aussi que c'est plus intéressant humainement, parce que l'homme est ainsi. L'homme, au fond, est une histoire assez malvenue, qui a toutes sortes d'inconvénients. Il est bien obligé, à un certain moment, d'apercevoir qu'il y a une part d'échec considérable et qu'il faudrait liquider. Mais s'il se supprime, alors il supprime tout, c'est embêtant. Il y a toujours, je crois, chez l'homme, cette nécessité de se supprimer en se conservant.
Il ne peut y avoir de limite entre les hommes dans la conscience, et qui plus est la conscience, la lucidité de la conscience rétablit nécessairement l'impossibilité d'une limite entre l'humanité elle-même et le reste du monde. Ce qui doit disparaître du fait que la conscience devient de plus en plus aiguë, c'est la possibilité de distinguer l'homme du reste du monde. Ceci doit être poussé, me semble-t-il, jusqu'à l'absence de poésie. Non que nous ne puissions atteindre la poésie autrement que par le canal des poètes réels, mais nous savons tous que chaque voix poétique comporte en elle-même son impuissance immédiate. Chaque poème réel meurt en même temps qu'il naît, et la mort est la condition même de son accomplissement. C'est dans la mesure où la poésie est portée jusqu'à l'absence de poésie que la communication poétique est possible. Ceci revient à dire que l'état de l'homme conscient, qui a retrouvé la simplicité de la passion, qui a retrouvé la souveraineté de cet élément irréductible qui est dans l'homme, est un état de présence, un état de veille poussé jusqu'à l'extrême de la lucidité et dont le terme est nécessairement le silence.
Comment faire œuvre sans œuvre? Comment fonder sans fondation? Comment se supprimer tout en se conservant? Encore des paradoxes pour évoquer l'expérience poétique chez Georges Bataille. On a entendu tout d'abord une archive qui date du 15 juillet 1951. C'était dans l'émission « Qui êtes-vous ?» diffusée sur la RTF. Et puis on a entendu un texte interprété par Jean Aucotrel, extrait d'une conférence que Bataille a donnée en 48 sur la religion surréaliste. Malgré ces paradoxes, ressort quelque chose qui est l'idée de communication. C'est-à-dire que même si la poésie tend à son absence, même si l'on veut se supprimer tout en se conservant, il y a quelque chose qui est permanent chez Bataille, c'est sûrement celle de communication poétique.
Puisqu'on parlait du cheval tout à l'heure, on va
et du beurre.
Mais voilà, mais je vais parler juste du cheval. Bon. On va reprendre un exemple avec un cheval qui est dans un de ses textes. Vous allez dans un abattoir et que vous assistez à la mise à mort d'un cheval, vous regardez le boucher qui met à mort le cheval. Lui, qu'est-ce qu'il voit dans le cheval ? Il voit une quantité de viande, il voit un rendement, il voit un gain, etc., etc. Il voit une chose. Il se peut que si vous assistiez à cette mise à mort du cheval, avant cette mise à mort, vous soyez déjà dans un certain rapport à l'animal qui n'a plus rien à voir avec la chose. C'est-à-dire que la restitution des valeurs sensibles joue à plein. Et le moment où le cheval sera mis à mort, et là, c'est peut-être, voilà, c'est son vocabulaire à lui, hein, c'est daté aussi, c'est un moment où l'objet et le sujet s'effacent. C'est ça qu'il appelle la communication. Alors, il ne l'exprime pas tout le temps comme ça, mais quand même très souvent.
C'est ce à quoi tend aussi l'expérience intérieure, non ?
Exactement.
De la fusion. C'est-à-dire qu'une fois qu'on dépasse le langage utilitaire qui va séparer les choses, qui va établir un rapport entre un objet et un sujet, on va être dans une fusion totale, une non-séparation.
Voilà, disparition du sujet et de l'objet. Alors, il reste dans ces schèmes de la subjectivité. Hein. Là aussi, ce que je disais tout à l'heure, Jean-Luc Nancy, dès les années 80, disait bon, c'est là qu'il faut le reprendre, le sortir de là. C'est là qu'il nous donne à penser très fortement, et c'est sa limite comme tout penseur. Voilà, en tout cas, voilà, c'est ce que disait Nancy. Alors, ce qui est intéressant dans l'extrait que vous avez, le premier extrait, c'est juste
l'archive,
une petite...
Voilà,
l'archive.
Vous avez secoué la tête, vous n'aviez pas l'air d'accord.
Non, ce qui me fait rire, c'est qu'il parle de se supprimer, puis après il dit que c'est amusant de le faire autrement. Enfin, c'est le terme amusant. Et il faut faire attention au terme, parce qu'il ne faut jamais trop prendre au sérieux Bataille. Bataille, c'est, faut faire attention au décalage qu'il introduit. Le mot amusant, c'est pas n'importe quel mot. Moi, j'entends encore beaucoup d'enfance, beaucoup de provocation, de malice, alors qu'il est en train de parler, de se supprimer quand même.
Ce qui était d'ailleurs évoqué dans la société secrète qui allait avec la revue Acéphale.
Oui.
C'est-à-dire qu'il a été question à un moment donné quand même qu'il soit sacrifié,
lui
par Kaiwa.
Oui,
par Roger Kaiwa.
Mmh. Oui, pareil.
Mais en fait, il s'est conservé finalement.
Mais il est là, oui. Enfin, encore un bout de temps après les années 40, oui. Oui. Mais alors, dans le dernier extrait, on est peut-être justement sur ces limites auxquelles Bataille arrive dans sa pensée. C'est là où s'articulent quand même des choses extrêmement complexes. Alors, ça part de l'absence de Dieu, qui conduit à l'absence de moi, qui conduit à l'absence de mythe, qui conduit à l'absence de communauté, qui conduit à l'absence de poésie. Ça fait que 5 absences et tout ça fonctionne ensemble. Ce qui est intéressant, c'est de voir que derrière, il y a un projet politique et qu'il faut pas... c'est pas parce qu'on enregistre en langue les traces des effets du hors-langue, de l'innommable, d'une manière souveraine et que uniquement une opération souveraine peut le faire, que cela n'a pas d'effet, que cela reste pure gratuité. L'absence de poésie, elle a forcément un rôle à jouer dans une nouvelle politique. Alors, qu'est-ce que ce serait que cette politique ?
Oui, c'est ça.
C'est étrange. Moi, j'ai pas la réponse. Lui-même dit qu'il sait pas trop ce que ça veut dire. Mais l'absence de communauté, c'est au moins une communauté qui ne se referme pas parce qu'elle n'est jamais formée jusqu'au bout, qui laisse toujours une ouverture possible. Donc, c'est l'antithèse de tout communautarisme. L'absence de communauté, c'est une appartenance qui fait qu'on ne s'y forge pas une identité close. Donc, absence de moi, etc. L'absence de mythe, c'est l'absence... C'est le mythe de cette communauté qui ne forge pas ni fusion ni identité forte. Et il me semble que l'absence de poésie, c'est peut-être ce genre d'exercice dont il parlait. C'est-à-dire ces recherches par la chance de communication qui ne sont pas sans effet sur celui qui les vit. Et c'est dans le même texte où il dit qu'il s'enfonce dans la conscience. Alors, vous voyez, il y a comme un projet politique où le citoyen, appelons-le comme ça, ou je ne sais pas s'il faut l'appeler citoyen, mais en tout cas, celui qui se livrerait à l'absence de poésie, qu'il soit lecteur ou qu'il en soit auteur, appartiendrait à une communauté absente. Tout ça, c'est étrange, mais ça définit quand même un projet politique et ça montre que toutes ces opérations-là ont des effets dans la cité. En tout cas, il peut l'imaginer comme ça. Et alors, du coup, ça rompt ou alors ça subvertit pas mal de propositions platoniciennes, puisque le poète est au cœur de la cité, il en fait quelque chose, il participe à la communauté, peut-être que c'est lui qui manifeste la négativité, etc. Enfin,
Mais c'est intéressant de réhabiliter finalement la poésie dans le domaine politique, alors même que c'est aussi le domaine politique, le domaine de l'institution, de l'utilitaire, qui subvertit le langage. Donc en fait finalement la poésie, il y aurait ce mouvement chez Bataille qui serait que la poésie se serait réappropriée en fait la domination qu'elle subissait pour la retourner contre la politique.
Oui, bah, de toute façon, voilà, quand on parle d'hypermorale chez lui, il y a aussi, il dit que la poésie, c'est comme le sacrifice absolument immoral, mais évidemment, on peut pas se tenir à ça. Ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il s'agit pas d'être immoral, point. Il y a quelque chose qui va naître de toutes ces opérations-là et qui, sans doute, définissent pour lui un projet beaucoup plus grand qu'il appelle le grand surréalisme. C'est pour ça que le surréalisme a toujours été pour lui une question très complexe, si on met de côté les rapports de personnes avec Breton. Je pense qu'il attendait du surréalisme quelque chose que le surréalisme n'a pas réussi à opérer, ou peut-être en la personne d'Artaud, peut-être de manière plus singulière, voilà, plus dispersée, et que ce qu'il attend de ce qu'il appelle religion surréaliste, toujours avec ses grands écarts de temps, hein, les premiers temps, le surréalisme, c'est peut-être la réalisation de ce projet global. Des lecteurs, des auteurs qui se donnent à ces mouvements de la poésie, qui produit des effets, et tout ça donne une communauté particulière. Si j'ai encore une seconde,
allez-y.
C'est parmi les lecteurs les plus intéressants de Bataille, pour moi, il y a Christian Prigent. Et quand Christian Prigent, dans les années 90, dans un de ses essais, reprend des notions de Bataille ou des formules de Bataille, c'est pour, là aussi, définir un projet à partir d'une écriture qui serait au plus proche de la négativité, un projet politique, voire civique.
Sylvain Santi d'avoir ouvert cette semaine consacrée à Georges Bataille. Je rappelle que l'on peut lire de vous Georges Bataille à l'extrémité fuyante de la poésie, c'est aux éditions Rodopi. Et puis un livre, notre livre, Le Montage comme articulation, unité, séparation, mouvement, en collaboration avec Jonathan de Genève. Et ça, c'est disponible aux presses Sorbonne Nouvelle. Et puis évidemment, chers auditeurs, vous trouvez les œuvres complètes de Georges Bataille aux éditions Gallimard. Et quant à nous, on se retrouve demain donc pour la suite de notre expérience Georges Bataille. Et demain, ce sera le professeur de philosophie Jean-Michel Beignet qui viendra nous parler de sa politique de l'impossible. Et puis, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger, la podcaster. Et vous y trouverez même toutes les références bibliographiques et musicales. Et vous pouvez aussi, bien sûr, nous retrouver sur Facebook et Twitter pour suivre nos programmes. Et une annonce, j'en profite pour vous dire qu'à la fin de cette semaine aura lieu la Nuit de la philosophie à Prague pour la première fois. Ce sera du jeudi 17 au vendredi 17 juin, du jeudi 16 au vendredi 17 juin. Donc après Londres, New York, Tel Aviv, Berlin, c'est donc Prague qui verra se rencontrer 45 philosophes du monde entier autour du thème images, sciences et politiques. Si vous êtes sur place ou si vous voulez y aller, vous trouverez toutes les informations sur le site français de recherche en sciences sociales et sur le site des Nouveaux Chemins.